Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Ça fait débat jusqu'à 19h avec la spécialiste en communication politique Charlotte Ozin. Bonsoir.
Bonsoir.
Auteur de Funambule, le discours politique décrypté. Bonsoir à Benjamin Morel.
Bonsoir.
Maître de conférence en droit public à l'Université Paris 2. Avant que j'oublie, on a besoin de vos lumières, mon cher Benjamin.
Dites-moi.
Bah oui, non mais parce que, et on vient d'en parler avec Xavier Bertrand, on a beaucoup parlé d'un article de la Constitution qui est le 49.3. Là, on parle d'un nouvel article qu'on connaît un peu moins. Enfin, en l'occurrence, Xavier Bertrand le connaît, et j'allais dire heureusement, parce que quand on a été plusieurs fois ministre, il vaut mieux, et président de région, le 47.1 que le gouvernement nous disait, Xavier Bertrand, non pas pourrait, mais va en fait utilisé pour le vote de sa réforme des retraites.
Il va utiliser un peu d'autopromo. Je fais une tribune dans Le Monde il y a quelques jours parce que très très clairement, c'est quelque chose qui aujourd'hui peut poser problème. Il faut voir que dès le moment où vous utilisez un PLFSS rectificatif, ça peut paraître technique, mais en réalité s'applique cet article-là. Ça implique que 15 jours sont dédiés au débat au Sénat et 20 jours à l'Assemblée, commission comprise.
Parce que sinon c'est open bar, en temps normal ?
Alors d'habitude, en effet, vous prenez le temps d'examiner le texte. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez à la fin du texte, il y a un vote final sur le texte et une fois que le texte a été examiné entièrement, amendé, modifié, vous l'envoyez au Sénat. Il faut voir que sur un texte normal, vous amendez en commission et en séance. Vous savez, le Parlement réuni et puis la commission qui est plus spécialisée. Sur un PLFSS rectificatif, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez le texte. Le temps en commission est perdu parce qu'en réalité, ce type de texte, on ne peut pas l'amender en commission. Il arrive en séance, donc on est toujours dans cette période des 20 jours. Et là, il est examiné, il peut enfin être amendé. Mais si au bout du temps, vous en êtes à l'article 1 ou à l'article 2, eh bien, ce n'est pas grave. Vous ne votez plus. Le texte est directement transmis au Sénat, qui n'a que 15 jours. Ce qui signifie qu'on peut avoir un examen extrêmement limité. Admettons qu'un certain monsieur Ciotti ait envie d'amender l'article 4 de ce projet de loi et qu'on en est toujours à l'article 2, ça veut dire qu'il ne peut pas le faire. Ça veut dire que tout d'un coup, on se retrouve dans une situation où il ne peut pas le faire. Il y a une interview extrêmement importante de Laurent Fabius, enfin une interview des off de presse plutôt, dans le Canard Enchaîné il y a quelques jours, qui disait grosso modo qu'en l'état, ce n'était pas constitutionnel. Parce qu'il fallait que le Conseil puisse se prononcer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que probablement, pour qu'il y ait pour que l'Assemblée se prononce, le gouvernement, in fine, sera contraint d'utiliser le 49 alinéa 3, ce qu'il avait pour objectif d'éviter.
Mais comment est-ce que ça pourrait ne pas être constitutionnel alors qu'on s'appuie sur un article de la Constitution ?
Alors parce que justement, le PLFSS, il a été inventé pour quoi ? En fait, c'est pour éviter, comme les projets de loi de finances...
On va dire aussi PLFSS, parce qu'on dit ça depuis tout à l'heure, c'est le projet de loi rectificatif de la Sécurité sociale.
C'est ça.
Du financement de la Sécurité sociale.
Ce type de projet, ça a été fait pour arriver extrêmement rapidement avant le 1er janvier. L'objectif, c'est d'éviter les shutdowns. Parce qu'en réalité, un projet de loi de financement de la Sécurité sociale
classique... c'est plutôt aux États-Unis, ça.
Exactement. Mais justement, c'est pour ça qu'on a introduit ça dans la Constitution. Si jamais votre budget de la Sécurité sociale n'est pas voté théoriquement avant le 1er janvier, vous ne versez plus de pension. Donc ce dispositif-là, il a été inventé pour qu'on vote les budgets, quoi qu'il arrive, avant le 1er janvier. Sur les projets de loi de rectificatif, l'idée c'est grosso modo, admettons que votre budget ait été voté le 31 décembre. Et puis, manque de bol, au milieu de votre année, il y a eu une crise Covid. Ça change votre équilibre du régime. Et donc, ce faisant, vous pouvez aller vite. Mais donc, c'est justifié par l'urgence.
Donc, Laurent Fabius, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, on peut utiliser 47.1, mais là, c'est pas le contexte.
C'est pas le contexte. Il n'y a pas d'urgence. C'est-à-dire que si la réforme n'était pas votée en avril ou en juin, eh ben, ça ne changerait pas la physionomie de la chose. Donc là, en l'occurrence, eh bien, il n'y a pas d'urgence. D'où le fait que l'Assemblée doit se prononcer. Si jamais il y a de l'obstruction, il faudra qu'elle se prononce avant. La seule façon de la faire se prononcer en urgence, c'est le 49 alinéa 3.
En tout cas, si ça arrive, Charlotte Ozin, il va falloir adapter la communication politique que vous connaissez bien.
Oui, tout à fait. Le gouvernement va être attaqué, évidemment, sur l'instabilité finalement qui entoure ce texte avec les manifestations de jeudi, de samedi. Éventuellement, une fois que le texte sera adopté, le Conseil d'État et donc l'ensemble des institutions qui pourraient... là aussi, ajouter de la pagaille à la pagaille et de l'instabilité à l'instabilité. Et puis par ailleurs, ce qui moi, me paraît vraiment, pour le coup, très important à avoir en tête, c'est que ça doit être perçu comme une action qui restreint le rôle du Parlement, qui restreint le pouvoir des parlementaires. C'est quelque chose qu'on reproche.
Qui coupe les bras et les jambes aux parlementaires,
absolument,
tout simplement.
Absolument.
Ce que vient de dire Benjamin.
Et c'est, et c'est quand même sur un texte emblématique de ce quinquennat sur lequel le gouvernement ne peut pas se rater. ce qui va potentiellement ressortir en termes d'image, de perception, c'est le gouvernement a en effet coupé les bras et coupé les moyens d'action du Parlement.
Alors qu'on a entendu encore hier Olivier Dussopt en déplacement dans l'Hérault qui disait, attendez, là maintenant le texte est là, il arrive en Conseil des ministres, il va y avoir un travail parlementaire. Bah, s'il y a un 47, il n'y a aucun travail parlementaire.
Il n'y aura pas de débat parlementaire, quasiment pas.
Mais alors... il ment, Olivier Dussopt, bah, ou il fait. C'est plutôt une question pour Charlotte. C'est quoi ? C'est de l'affichage ? C'est du, c'est de la com ?
De toute façon, il ne peut pas dire qu'il n'y aura pas de travail parlementaire. Bah, mais on comprend.
Il peut pas. Je sais pas. Moi, je sais pas s'il gagnerait pas à dire. Écoutez, voilà, c'est comme ça.
Oui, bah ça montrerait, et on le sent déjà, qu'il y a une telle fébrilité au sein du gouvernement sur
Olivier
le passage
Dussopt,
de ce texte.
Mais on n'est pas loin quand même, hein, c'est, si on utilise des méthodes comme celle-ci. Enfin, moi, j'ai été assez saisi par ce que m'a dit Xavier Bertrand il y a quelques minutes en disant que ça va se passer vraiment comme ça. Oui. C'est même pas une hypothèse.
Ah non,
c'est obligatoire, c'est impliqué par le type de texte.
Bon, alors c'est impliqué par le type de texte, mais derrière, il y a le président du Conseil constitutionnel qui vous dit non, ce ne sont pas des méthodes. Donc,
non, parce qu'il faut bien
vous rendez
voir.
Compte. Attendez, vous vous rendez compte quand même, les Français qui déjà n'y comprennent rien, ça a été mal expliqué. Vous avez le président de la République qui, de Barcelone, dit « Attendez, vous m'avez élu, la réforme des retraites, c'était dans le package, c'était dans les propositions, donc c'est normal qu'il y ait cette réforme des retraites. » Qui vous dit « il y a eu des élections législatives au mois de juin dernier, on aurait pu choisir une autre majorité, on a choisi celle-ci, donc c'était dans le package. » Enfin, vous vous rendez compte ? Vous avez le conseil d'orientation, et je parle sous votre contrôle à vous deux, il y a le conseil d'orientation des retraites, c'est quand même dément. Ce corps qui sort un rapport en septembre dernier, on lui fait dire tout et son contraire à ce rapport, selon qu'on soit de la majorité ou de l'opposition. Comment est-ce que vous voulez que les Français comprennent quelque chose ? Moi, je comprends très bien qu'il soit à 1 120 000 à sortir dans la rue jeudi dernier.
Mais la réalité, c'est que l'opinion s'est cristallisée dès l'été 2019. C'est assez intéressant de voir qu'en réalité, l'opinion n'a quasiment pas bougé alors que la réforme a changé. Elle n'a plus grand-chose à voir avec celle de 2019-2020. Mais dès cette époque, il y a une cristallisation et ceux qui étaient opposés à l'époque le sont toujours. Donc la bataille du gouvernement, ce n'est plus la bataille de l'opinion. Et je crois qu'on comprend le 47-1 et ce qui va s'en suivre par ça. Le gouvernement a enregistré qu'il ne gagnerait pas la bataille de l'opinion et que donc il fallait aller vite. Parce qu'en règle générale, ce qui met fin historiquement à une mobilisation sociale, c'est le vote du texte. Plus vous avez un texte qui est vite voté, moins vous évitez la contagion dans la rue. Évidemment, ça implique d'avoir des manœuvres qui peuvent poser problème par d'autres aspects. Et c'est un pari aujourd'hui très risqué.
Charlotte Heuzin.
Oui, Benjamin disait très bien, ce qu'il faut retenir, c'est donc en effet que c'est la deuxième fois que ce texte est proposé. Il avait été déjà proposé par Édouard Philippe, donc on doit rejouer le match qui ajoute quand même de la tension à la tension. Hein. On a l'impression que c'est un serpent de mer.
Édouard Philippe, il voulait une retraite à 67 ans, si
le texte, évidemment, le texte, la réforme en elle-même a beaucoup bougé. Néanmoins, c'est un sujet qui est au cœur du débat public depuis... C'est les deux quinquennats.
On essaye plusieurs fois. Après, il y a eu le Covid et puis voilà.
Exactement, bon, voilà. Ce qui a repoussé. Donc ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième, c'est qu'on a en effet l'impression que le gouvernement refuse de composer finalement avec les forces politiques en place et cherche des subterfuges pour faire passer cette réforme coûte que coûte. Et ça, évidemment, que ça cristallise des tensions à la fois au sein de l'opposition et dans la rue, d'où les manifestations
alors,
d'aujourd'hui.
Qui a raison, qui a tort ? Nous, on a des informations à Europe 1 très très fiables de, qui viennent d'arrêter de vous marrer.
Ah non, qui a raison, qui a tort.
Je dis, on a des informations d'Europe 1.
Je ne riais pas pour ça,
et
je vous jure.
Et le constitutionnaliste se marre. Non mais attendez, vous allez sortir de ce studio. Donc je disais, nous avons des informations qui sont extrêmement fiables, qui sont du service politique d'Europe 1, qui nous disent... Elisabeth Borne, elle, ne cédera pas sur les 64 ans, sur les 44 ans d'annuité pour ceux qui ont commencé à travailler très tôt et sur le brut versus le net, sur les 1200 euros. On vient d'en parler avec Xavier Bertrand qui me dit, attendez, vous savez, ce genre de choses, à un moment donné, on finit par lâcher. Oui ou non ?
Oui, évidemment, vous finissez par lâcher quelque chose, ne serait-ce que parce qu'il faut bien voir que le vrai risque pour la majorité, c'est que la majorité se divise. Or, aujourd'hui, la majorité est quand même en grande partie divisée. Vous avez Barbara Pompili qui a dit non. Les modems, pour beaucoup, crissent.
Je vais reprendre ce qu'a dit Charles Villeneuve dans les Grandes Voix ce matin. Barbara Pompili, honnêtement...
Ouais, mais là, bon, on va avoir une majorité à quelques voix. Hein. Donc Barbara Pompili et les gens de En Commun, ils vont être nécessaires, de même que les modems qui aujourd'hui traînent des pieds. De même que beaucoup de LR dont on n'est pas tout à fait sûr... Combien ne voteront pas la réforme ? Par ailleurs, par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure, croyez-vous que les LR qui auront vu le texte arriver à l'article 2 et beaucoup de leurs amendements, même pas examinés, vont être extrêmement heureux ? Ça va être compliqué de composer là-dessus. Donc, il faut garder du biscuit. Et l'erreur stratégique du gouvernement, c'est d'avoir renoncé tout de suite aux 65 ans. Parce que quand vous voulez démobiliser, il faut arriver à rogner sur votre mesure symbolique. Toutes les mesures que vous avez évoquées.
Quand vous vendez votre voiture, c'est ça ?
Exactement.
Vous mettez 15 000, sachant que vous allez la vendre 13 000.
Exactement. Et là, entre guillemets, le produit d'affiche, celui que comprendra la rue. Parce que tout ce que vous évoquez va être important pour le jeu parlementaire. Mais pour démobiliser dans la rue, pour démobiliser les grévistes, il faut une mesure symbolique. De mesures symboliques sur lesquelles reculer aujourd'hui, bah, il n'y en a plus vraiment. D'où un problème stratégique qui s'explique par ce que j'évoquais tout à l'heure. Il fallait aller vite, démobiliser dès le départ pour aller très rapidement après. Visiblement, la démobiliser dès le départ, ça n'a pas marché.
Bon, en tout cas, les jeunes se sont mobilisés aujourd'hui. 12 à 15 000 selon les chiffres de la police ou du cabinet Occurrence. Ces jeunes qui... Alors, on sait qu'il y a un autre rapport au travail aujourd'hui. Les sondeurs nous le montrent à chaque fois. La valeur travail n'est plus du tout la même. Il y a encore quelques années, 80% des Français mettaient en numéro 1 le travail dans leurs objectifs. Maintenant, je crois qu'on est à 30%. Donc, on est quand même redescendant, à dévaler la pente. Et je pense que le Covid y a été, pour beaucoup, la grande démission aux États-Unis, tout ce que vous voulez. Ces jeunes, aujourd'hui, avec le soutien de Jean-Luc Mélenchon, avec le soutien d'autres teneurs politiques, quel impact sur la suite des événements, Charlotte Ozin ?
Oui, alors c'est vrai que déjà en termes de timing, donc cette mobilisation 2 jours après la grande mobilisation de jeudi a pu un peu interroger et on se demandait si elle allait être un succès. Bon, on voit que finalement la mobilisation est relativement présente et importante. Je pense qu'en effet, la figure de Jean-Luc Mélenchon a quand même contribué à beaucoup mobiliser la plupart des associations qui étaient présentes.
C'est-à-dire qu'on attend encore Jean-Luc Mélenchon, c'est pas...
Il reste sur ce type de mobilisation, une figure clé. Et d'ailleurs, enfin, il me semble que là, ce qu'on retient dans la presse, là, depuis quelques minutes, depuis la fin de cette mobilisation, c'est justement sa prise de parole, le fait qu'il maudit Macron pour la mise en place, en tout cas tenter de mettre en place cette réforme. Et là, on retrouve le Mélenchon des grandes heures qui finalement se pose en héros sur ces sujets sociaux et sociétaux.
Oui,
bien sûr. Donc la mobilisation, elle est aussi constituée autour de lui, ne soyons pas naïfs. Je pense que c'est important de le redire. Après, qu'il y ait une vraie mobilisation de la jeunesse sur les sujets de travail qui pourtant, et en tout cas de retraite, ça peut leur paraître encore loin, mais non, en effet, je suis persuadée qu'il y a une très forte attente dès maintenant sur la façon de repositionner le travail dans l'équilibre vie privée, vie perso, dans évidemment tout ce qui est télétravail, volonté de travailler à l'étranger une partie du temps, dans tout ce qui est fluidité du marché. On peut avoir plusieurs vies, on peut commencer sa carrière dans le public, aller dans le privé, vouloir ensuite travailler à l'étranger. Tout ça, ce
le
sont
zapping.
Des... Oui, absolument. Mais ce sont aujourd'hui des sujets clés. Et donc, qu'il y ait une vraie mobilisation d'une partie de la jeunesse ne m'étonne pas. Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui.